Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au 28e épisode de Divan Quest. Le 28e épisode de Divan Quest, à ne pas confondre avec le 27e épisode de Divan Quest. Ça s'en ressemble beaucoup, mais on va espérer qu'il va être un petit peu plus long que le 27e.
Ben oui, on s'excuse, hein, un nouveau format.
C'est ça que ça fait. La gestion de changement.
On s'adapte au changement. On pensait que la réflexion à Jeff allait être plus profonde et significative. Ben non.
On pensait qu'il allait se passer plus de choses le 15 août dans le monde, mais non.
Jeff qui me regarde en me jugeant.
Je fais ce que je peux.
On s'adapte. On mais s'adapte. Voilà. Fait que comment ça va, les gars, à part la honte d'avoir fait un épisode court?
Je m'en remets pas. Hein? Fait que j'ai pas ici.
Jeff sans mots. OK. Fine. Ben qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, à part la honte, mettons?
À part la honte,
ouais.
Ben, tu sais, non. ben, en fait, moi, j'ai été beaucoup sur la route dernièrement avec les vacances. Là, ma blonde est en vacances un peu. Donc, le peu de gaming que j'aurais fait aura été sur des consoles portables. Fait que ce que j'ai fait, ben, j'ai continué ma game de Pokémon X. Ben oui, là, je suis sur un trip, c'est de même. Deal with it, puis lâchez-moi patience.
Tabarnak.
Ah non, c'est ça. Ouais.
Cherchez-le pas.
J'ai commencé un petit peu aussi à jouer à Mother Tree. La suite d'Earthbound, si on veut, là,
ouais.
Qui sur une cartouche reproduite, justement, on en parlait la semaine passée, on aurait pu faire un lien, que Mathieu nous avait fait venir là, il y a un certain temps, quelques mois. J'étais un gros fan de Mother Earthbound, là. J'ai joué plusieurs fois au jeu original, le Super NES, là, le qui serait Mother 2 si on prend le même...
Ah, c'est compliqué.
Ah, c'est tout le temps ça, les jeux japonais, les RPG, hein, ils changent les chiffres, ils changent les noms, on se comprend plus.
Faudrait-tu qu'on ait l'air des astis de maillet quand on en parle? Ça marche?
Ouais, pas pire. Donc, Earthbound, un de mes jeux préférés, c'est comme la suite. Je voulais y jouer sur Game Boy Advance, qui est une console que j'adore. Fait que j'ai joué un petit peu. J'ai pas joué encore beaucoup, mais tu sais, je vais progresser. Puis s'il y a quelque chose à dire, là, que je pense, on en reparlera dans un épisode futur. J'ai recommencé aussi pour la 88e fois, je pense, à peu près, là, une game de Chrono Trigger. Ben oui, je m'en suis trouvé finalement une copie ODS là, que j'ai... qui était dans un bon prix, fait que je l'ai pris pour l'avoir sur toutes les consoles parce que je pense que j'ai un problème, les gars. Fait que je me suis reparti une game encore une fois. J'en parlerai pas plus que ça parce que tout le monde connaît le jeu, mais c'est vraiment un de mes jeux favoris. Sinon, au moment d'enregistrer, là, c'est pas encore fait à cause des magies de l'enregistrement en avance. Là. Mais le 9 août dernier pour vous, Blizzard rendait accessible là, à ceux qui avaient déjà acheté l'expansion Legion qui sort le 30 août, donc dans le futur... la classe des Demon Hunter. Fait que c'est certain qu'au moment où le podcast va sortir, je vais y avoir déjà joué. Mais au moment d'enregistrer, j'y ai pas encore joué, donc je vous en reparlerai. C'est bien compliqué.
Ouais, c'est...
Je pense que ça demande un résumé. Là, on est dans le passé, mais tu parles de quelque chose que ça va avoir fait dans le présent, dans le passé,
ouais.
De quelque chose qui est présentement dans le futur.
Oui.
Fais plaisir.
J'ai pas vraiment analysé si t'avais raison, je vais juste dire oui.
Tu verras ça quand tu nous réécoutes dans le futur.
C'est ça. Puis si j'avais tort, je le couperais au montage.
Voilà.
Dans le futur de notre présent, donc dans votre passé à tous.
Puis avant de péter un anévrisme, toi, Matt, ça fait de long?
Ben, à part nourrir un anévrisme, j'ai. En fait, je suis pas du genre à beaucoup vouloir parler des jeux mobiles en général. Je laisse ça à Jeff. Mais je me suis pris à. Je suis toujours curieux des genres de jeux qui se font sur certains thèmes qui sont sous-nourris. Et étant un grand fan de hockey, j'ai toujours une espèce de... J'aurais dit curiosité morbide, parce que c'est rarement satisfaisant, mais de ce qui se fait dans les jeux de hockey. Évidemment, j'ai ouvert l'App Store sur Android et je suis dans d'autres 4-5 jeux de hockey pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et parmi ça, je découvre Hockey Stars, mais il y en a plein d'autres qui reprennent la même formule, dont fait par Miniclip, peu importe. Moi, celui dans lequel j'ai mis mon temps, et j'en ai mis quand même beaucoup, c'est dans Hockey Stars. En gros, là, c'est un jeu de pichenote de hockey, où est-ce qu'on a comme 5 joueurs qui sont 5 billes, puis il y a une puck, puis il faut faire rentrer la puck dans le filet adverse, tout simplement. Ça joue en alternance de tours, donc tour par tour. Fait que dans le fond, c'est un jeu de puzzle physique, si on veut, mais compétitif. Mais ce que j'ai aimé du jeu, c'est qu'automatiquement, quand ça commence, on a un petit tutoriel. Il nous pitch directement dans le jeu, puis il nous pitch dans une game en ligne, pas dans une game simulée avec un AI, etc. Okay. Ce qui fait que tu tombes tout de suite à découvrir la profondeur du jeu qu'est le côté compétitif. Puis ça te force à, bref, vraiment comprendre le jeu rapidement. Les games se jouent dans 2-3 minutes, fait que c'est vraiment le fun. Puis je trouve que c'est une taille vraiment différente.
Fait que c'est toujours une version du croquignol mélangé avec le hockey, là, ou...
On pourrait dire ça de même.
Ben, de ce que je comprends, c'est que tu dois positionner tes joueurs pour bloquer le
ça.
Chemin à l'autre. Là.
Exact. Puis la mécanique qui rend ça vraiment intéressante, c'est que tu ne vas pas juste pousser avec tes joueurs, là, avec tes billes, la rondelle. C'est que tu vas, quand il est à proximité, tu as comme un radius où est-ce que tu peux prendre le puck, puis là, tu vas pouvoir le tirer librement. ce qui fait que tu peux faire des tirs plus précis si tu as un joueur qui est positionné à côté. Fait que ça devient une game d'essayer de te positionner sans te faire bander par l'ennemi qui voudra pas que tu restes à côté. Fait que ça donne une belle profondeur à ce jeu-là. Mais en fait, à ce que j'en comprends, là, c'est vraiment une variante sur un jeu de société qui s'appelle Subbuteo, qui est très très populaire en Europe, qui est un jeu de soccer, en fait.
Okay.
Où est-ce qu'on a des petits bonhommes qui sont comme sur des demi-sphères.
Tes petits bonhommes, est-ce qu'ils tombent puis ils se font mal?
Oui, exact. Puis ils se lamentent pendant des heures, puis c'est terrible. dans le Subbuteo, t'as vraiment aussi comme une espèce de puck de croquignol, si tu veux, qui est le ballon. Puis chacun des joueurs a un petit dôme, puis il faut que tu les pichenottes pour faire les déplacements. Fait que ça me fait vraiment penser que c'est une adaptation thématique de hockey de ce jeu-là. Mais ça fonctionne très bien, puis c'est le genre de jeu que j'ai vraiment mis du temps parce que les parties sont très, très courtes. Puis c'est immédiatement satisfaisant. Donc, Hockey Stars sur iOS puis Android. J'ai assez parlé de jeux mobiles pour les quelques prochains mois, possiblement. Ou pas, finalement. Aussi, j'ai découvert l'app de Valentine. Puis ça me fait chier parce que je voulais en parler à Dan parce qu'il a demandé quelque chose. Il était sur notre chat du podcast. Puis il a dit, c'est plate que dans Pokémon, quand tu marches, ils prennent pas le podomètre pour checker ta distance dans tes œufs
à Pokémon Go. Parce que quand j'ai de mon gazon, c'était pas assez long en distance pour qu'ils l'enregistrent.
Ben, t'as l'app de Valentine Marche ta poutine. que tu peux marcher un nombre de pas qui est déterminé selon ton âge et ton sexe.
Ouais, ouais, ouais.
Qui, lui, prend le podomètre pour les pas. Puis si tu marches la distance requise, t'as une poutine gratuite et t'as le droit à 6 par année. Fait que c'est pas mon genre de dire non à une poutine gratuite.
C'est sûr. Hein? Fait que tu peux dépenser ta poutine avant de l'avoir mangée.
Et voilà, pré-dépenser ta poutine. Puis tu peux quand même le rouler en background en jouant à Pokémon Go. Ce qui fait que tu peux t'accumuler des poutines en salle. On va vous partager évidemment le lien pour Marche ta poutine sur les réseaux sociaux.
Attends malade. Un peu, là, je t'occupe, je m'en vais downloader l'application.
Oh, on vient de perdre, ça va marcher.
Hein? Bye,
fait que j'espère que tu as du bon stock cette semaine, Jeff, parce que ça va être dur d'upstager de la poutine gratis.
Ah ben, on met-tu l'autre tout de suite?
Hey, good show!
Ah, finalement, il va ressembler à l'épisode de la semaine passée. Oui, Jeff!
Peu de gaming cette semaine, là, en fait. Il y a deux choses que j'aimerais ça vous parler. J'aimerais ça vous parler d'un livre que ça fait quelques jours que j'ai découvert, qui s'appelle Underground Airlines, qui est un livre qui est sorti au début juillet par Ben Winters. En fait, c'est un livre qui se passe dans une version alternative de l'histoire des États-Unis, en fait, où l'esclavage n'a jamais été rendu illégal. Donc, là où on a le Hard Fork, sont les quatre États qui faisaient partie des États confédérés dans le temps, qui pratique encore l'esclavage, puis on a des personnages qui évoluent dans cette version alternative, mais qui se passe aujourd'hui, par exemple. Donc, on a toute la perspective du hip-hop, puis tout ça, qui est une musique qui vient de là, qui est totalement différente.
On a déjà fait nos intelligents en disant que ça s'appelle une uchronie.
Voilà,
on
une uchronie, exactement, ouais, ouais. C'est vrai. Donc, c'est ça.
Ça impressionne plus personne.
Mais c'est super bon. C'est un thriller. C'est super intéressant. Puis, tout plein de petits éléments comme ça, comme la musique hip-hop, qui prend un sens totalement différent, vu qu'ils ne sont jamais libérés de l'esclavage. Puis, tout mm-hmm. ça. Super bon. Fait que Underground Airlines, si ça vous intéresse.
J'aime le setup. Ça donne des frissons juste d'y penser.
Le hip-hop, ça?
Le titre.
Non, l'esclavage.
le titre est très clever, là, par rapport au Underground Railroad.
Ouais, ouais.
Exactement. Mm-hmm. Sinon, on est un podcast, puis des fois ça nous arrive de parler d'un autre podcast ou d'en écouter d'autres. Fait que j'ai découvert là, quelques semaines, puis j'en ai pas parlé avant parce que j'écoutais les épisodes tranquillement, pas vite, puis finalement c'est quelque chose que je me suis retrouvé à les réécouter là, à chaque semaine. Je me suis dit, comme c'est devenu une habitude, autant en parler. Un podcast anglophone qui s'appelle The Lapse. En fait, le concept de The Lapse, c'est des histoires vraies, mais améliorées. Donc,
c'est vrai, mais c'est pas assez bon.
La vérité, c'est poche. Il faut l'améliorer.
En fait, ils ne sont pas améliorés au niveau de la narrative, mais améliorés au niveau des effets sonores.
J'allais dire, si tu écoutes les élections américaines...
si peu améliorés.
Donc, en fait, c'est que j'ai oublié son nom, mais l'auteur de Labs, il fait ça tout seul, en fait. Il vit de ça, d'ailleurs, grâce à Patreon. Quelque chose que nous, on ne fait pas.
Hein? Patreon ou vivre de ça?
Les deux.
Ouais. ce qui arrive, c'est qu'il demande à ses auditeurs ou à n'importe quelle personne qu'il rencontre sur la rue et qui ont des histoires intéressantes. Il dit, mais tout le monde a une histoire intéressante à raconter. Fait qu'il est fait venir dans son studio et c'est une take. Il n'y a pas de préparation. Les gens ne sont pas préparés. Puis il lui demande de raconter leur histoire. Après ça, il édite l'histoire pour en faire une narrative qui suit. Puis il fait un gros travail de foley. Pour ceux qui ne savent pas quoi, le foley, c'est tous les effets sonores dans les films, dans ces choses-là. Okay. Donc il fait un gros travail d'effets sonores qui va venir donner les ambiances puis recréer les histoires. Des fois drôles, des fois touchants, des fois vraiment dérangeants.
Je trouvais ça intéressant que tu parlais qu'il prenait justement ce qui a été compté. Puis le dresser en une narrative cohérente. Parce que les gens qui nous écoutent, ils le savent pas, mais c'est ce que je fais à toutes les semaines. Quand je monte le podcast, si vous les entendiez en studio, il y a rien qui tient debout. C'est un travail monstre.
On sonne un peu comme...
Ouais, avec l'autotune, dans ce temps, on peut faire des miracles.
Donc, hein? Donc, The Lap, c'est des petits épisodes de... Ça peut, les plus courts sont 20 minutes, il y en a qui peuvent aller jusqu'à une demi-heure peut-être, donc c'est assez court. C'est les gens qui viennent raconter des tranches de vie, finalement, avec les effets sonores, c'est super intéressant. Si vous cherchez quelque chose à écouter, des fois un petit transit qu'on n'a pas le temps d'écouter un pod d'une heure, mais on veut écouter quelque chose, un petit 20 minutes pour écouter une histoire. Mais
tu me dis c'est quelque chose de le fun qui est 20 minutes, je suis tout le temps content parce que j'ai beau avoir pas mal de chars à faire quand je recommence à travailler. Et à un moment donné, là, les podcasts s'accumulent, puis j'ai la misère à les clearer en une semaine. Là.
Tu pourrais quasiment écouter l'épisode 27 du pod.
Ça, je peux l'écouter en me rendant au deuxième étage. Je
pense. Donc, on pourrait mettre un lien là, vers le, yep. Ce podcast-là. Mais The Laps, donc les histoires vraies, gossied up, comme il dit.
Aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, plus là, on va faire comme toutes les actualités d'habitude. Ben oui, mais on change le format, on remélange les choses.
Ils vont être là plus tard.
Voilà. On vous garde alerte.
Celui qui vive.
Celui qui vive. Peut-être votre téléphone va sonner et quelqu'un va vous poser une question. Ah non, ça, c'est moi. Ça a été le retour à l'école qui commence déjà à revenir en 22 août. Ça s'en vient. Les cauchemars s'en viennent aussi. Là. Bref, 22 août.
Les sueurs froides la nuit.
Oui, puis... oui. Tu te réveilles en rêvant que tu donnes un cours. Tous les profs de l'univers dans la dernière semaine avant la fin des vacances.
Ah, c'est votre version, ça, d'être en boxeur à l'école. Ouais, donc, c'est juste... Chris, j'ai fini l'école. Comment ça, j'étais à l'école?
Donc, c'est juste d'être à l'école.
Ah, c'est tellement pire.
Donc, 22 août, hein? Revenons à nos moutons. Ou pas. Je commençais en 1864 avec une nouvelle d'importance. C'était la date de la première convention de Genève qui a marqué la création de la Croix-Rouge internationale puis le début du droit international humanitaire. En gros, là, ce que ça dit, cette première convention de Genève-là, c'est que les ambulances, les hôpitaux, c'est des trucs qui sont neutres et protégés en temps de guerre. Donc, aucun des deux côtés a le droit de les attaquer. Comme quoi, même dans l'inhumanité de la guerre, ben on retrouve encore un soupçon d'humanité. Contrairement à certains sous Reddit. R Pokémon Go.
My God! Ça t'a fait mal, hein?
Oui.
Dire que t'as partagé ça.
C'est terrible parce que la descente a été comme rapide et douloureuse pour le R Pokémon Go.
Tous les sous Reddit connaissent des guerres civiles.
Puis il m'en vient quelques-uns d'autres à l'esprit.
Ouais,
c'est qu'ils sont très peu humains.
On dirait que plus la popularité augmente, plus l'humanité diminue. Donc, je continue. 1932, début de la télédiffusion publique de la BBC. Hein, on peut les remercier pour nous avoir fait découvrir des bijoux de la télévision britannique comme Doctor Who ou Doctor Who.
Hey, Sherlock.
Ouais, c'est vrai.
Je te donnerais bien une punition, là. Merci.
1987, une très grande date, encore une fois, dans l'histoire du NES. Comme la semaine passée, finalement, mais pour quelque chose qui moi, personnellement, me rejoint encore plus. Eh oui, Zelda.
Ah, c'était ça? J'avais pas...
Ah, t'avais pas compris. Je pensais que c'était Punch-Out.
Tu fais ça.
C'est parce que c'est chez nous, là.
Mais on s'entend-tu qu'en 87, là, c'est deux lundis occupés, là? Metroid Zelda à une semaine d'intervalle, quand même.
Ouais, ça chômait pas. Ça ressemble crissement pas à ce qu'on a eu avec la Wii U, hein? Ouch!
Ça fait mal. J'avance en 2005, une autre grande date dans l'histoire de Nintendo, la sortie de Nintendogs, ce jeu où on pouvait montrer des tours à un chien virtuel en ayant l'air vraiment cave de parler avec son DS. Nintendogs a maintenant 11 ans et on y retrouve plusieurs chiens virtuels qui n'ont reçu aucune attention depuis maintenant 10 ans et 11 mois.
Donne la patte. Ah, oh, il est mort.
Je me demande si... je sais pas s'il y avait comme le côté de fonctionnalité relié au temps, puis ça, tu le rouvres, puis ta salle est remplie d'excréments. Tu sais, Animal Crossing le fait avec...
Tu pourrais appeler le service de Grosse Bouse Go.
Exactement, ouais. Bouse Go, effectivement.
J'avance en 2007. Le bot Storm envoie un nombre record de courriels infectés de virus, 57 millions de courriels, avec comme but de faire planter les internets web. Et il y arrivera quand même pas, puis les internautes ont alors pu lui répondre un collectif « Noob ».
Happy birthday to you.
Naissance en 1920 du romancier américain Ray Bradbury, connu pour ses œuvres qui se retrouvent dans le domaine littéraire qu'on appelle de l'anticipation, donc une histoire qui se passe dans un futur rapproché. Son roman le plus connu, c'est peut-être Fahrenheit 451, là, un roman de science-fiction dystopique que j'ai pas lu, puis je sais pas pourquoi vraiment. Ouais, non, je lisais, puis je suis comme, mais je devrais avoir lu ça. J'ai aucune raison pourquoi je l'ai pas encore lu, autre que.
Tu t'en vas pas en vacances, toi, bientôt?
Voilà.
Traîne ça.
Ça va faire. Non, mais c'est déjà fait, les vacances, au moment où est-ce qu'il y a le pas des sortes.
Fuck!
On va être tout mêlé encore.
Je suis fourré dans mes menteries.
C'est dans le passé, du présent.
Ouais. Hey, l'as-tu lu pendant tes vacances?
Je sais pas, je fais un follow au prochain podcast dans le plus dur, plus éloigné.
Ah, j'ai mal à la tête.
1952, naissance de l'actrice québécoise Claire Pimparé. Hein, pour ceux qui, comme nous, sont nés au début des années 80, on se rappelle principalement son rôle de Passe-Carreau dans Passe-Partout. Et on se rappellera que Passe-Partout était financé par le ministère de l'Éducation.
Mon espèce de petite chatte de gouttière pleine de poils. Passe-poil.
Oh, je t'ai dit.
On se rappellera tous de Passe-Poil, le chat.
Il va s'en dire. On a toute sa date de naissance, salut.
À Passe-Poil, non. Non. Ah. Je vais avec le prénom du jour. Prénom du jour aujourd'hui, Symphorien.
Ah!
Ah oui, Symphorien, comme ce grand classique du slapstick québécois.
Marie, ta belle-mère?
Ah ouais, avec Césaire surprenant, dans 3 semaines.
Ah mon, moi je la comprends pas. Marier ce gars-là.
Mais c'est ce gars-là que je comprends pas, marier la belle-mère, ouais, non, la belle-mère.
Hey, hein, les années 70, on s'ennuie-tu pareil?
Ah, m'en rebelle comme c'était hier.
Est-ce ton bien, Danny, t'avais parlé des années 70 juste à la fin de ton segment, puis t'as même parlé de futur dystopique un petit peu avant.
Tu parles encore de Symphorien?
Non, il parle de ton segment de Shadowrun.
OK. parce qu'aujourd'hui, je vous parle de Headlander, en fait. Headlander qui a été publié le 26 juillet, c'est un jeu du style Metroidvania, donc des jeux d'exploration non linéaire où on va revenir en arrière, tout ça. Développé par Double Fine Productions puis publié par Adult Swim Games. Donc pour vous donner une petite idée, Double Fine qui sont derrière Psychonauts, Costume Quest que Danny a parlé, Grim Fandango que Danny a parlé, Broken Age aussi qui est un petit peu plus récent. Et. Adult Swim
et Brutal Legend.
Brutal Legend, c'est vrai, c'est vrai.
Bon, c'est quand même tout.
Je voulais garder une petite liste.
Il n'y en a pas question.
Les ceux qui ont publié là, Adult Swim Games, qui sont derrière Robot Unicorn.
C'est ça que j'allais dire.
1 et 2. Donc, en fait, Headlander, Dan, pourquoi j'en parlais, c'est que ça se déroule dans un futur dystopique. Donc, est-ce qu'il en existe vraiment d'autres sortes? qui est grandement inspiré de la science-fiction des années 70.
Fait qu'on revient à M. Bradbury, finalement.
On revient à M. Bradbury.
Voilà. Et à
Et Headlander est notamment inspiré des séries télévisées comme Star Trek ou plus précisément du film Logan's Run. Je sais pas si vous connaissez ça, les gars. Donc,
Star quoi?
Logan's Run.
Je m'en crise de ce que tu dis.
T'écouteras ça pendant tes vacances?
Bon, non, il est écouté.
Tu m'en parleras, mais tu l'as écouté.
Hey boy!
C'est compliqué.
Pour ceux qui n'ont pas compris, mettons, là,
ouais.
C'est parce qu'on enregistre quand même beaucoup d'avance, puis on enregistre 2 épisodes back-à-back. Ça donne des affaires weird de même.
On va s'habituer.
C'est ça.
Donc, Headlander, ça veut dire qu'on parle de tape cassette, d'écran monochrome, de fil couleur sépia, de musique disco. C'est un petit peu partout à travers le jeu. Donc, c'est donc dans un futur en minou brun hein, que l'humanité a choisi d'uploader la conscience de chacun dans une sorte de méga cloud storage, puis d'en donner leur corps fragile et mortel. Pour passer le temps, cependant, mais chacun peut prendre le contrôle d'un robot pour accomplir différentes tâches quotidiennes nécessaires ou encore pour s'adonner aux différents plaisirs corporels. Voilà. Cependant, évidemment, il y a une intelligence artificielle nommée Methuselah. Dans un jeu rempli de clichés, autant nommé le bad guy comme un cliché biblique, a pris le contrôle des robots et enfermé leur conscience humaine à l'intérieur. Donc, pour enrayer l'esclavagisme robotique, le dernier humain est réveillé de son sommeil cryogénique pour vaincre le puissant Skynet. Same thing. mais seulement sa tête réussit à survivre à la procédure, puis encore, elle souffre d'amnésie. Donc, Eleanor, on parle d'un jeu où on contrôle une tête dans un genre de scaphandre d'astronaute.
Futurama, non?
Ouais, c'est ça. Ben, un petit peu.
Nixon 2016.
Ouais. Qui... Je pensais aux Beastie Boys.
Donc, qui souffre d'amnésie, donc qui n'a aucune idée d'où elle vient, comment s'est retrouvée là, et qui ne peut pas parler, parce qu'une tête, ça n'a pas de poumon pour avoir de l'air. au niveau visuel, on est dans une palette de couleurs sépia, comme j'ai dit. C'est brun, c'est rose, c'est les couleurs années 70, c'est très, très disco. Les décors sont 70, la musique est disco. Les robots, quand je parlais d'activités nécessaires, ben, ils vont juste se promener pour danser. Ils vont dans des dance clubs. C'est ce que tu fais dans le futur, finalement, quand tu contrôles un robot. Mm-hmm. Ouais. Même que quand on compte la tête des gens, j'en parle tantôt, mais notre tête peut se brancher sur le corps de tous les robots pour en prendre le contrôle. Et quand on contrôle des robots non combattants puis qu'on fait l'attaque de mêlée, ils ont tous des mouvements de danse disco années 70 à la Saturday Night Live, des choses comme ça. Saturday Night Fever, pardon. Ouais. et mur à mur, des tapis à poils longs partout à travers le jeu. C'est écœurant. Quand tu marches dessus, le tableau il renfonce.
des shag rugs.
Des shag rugs. C'est écœurant. On a le choix de trois têtes au début du jeu, donc on peut choisir la tête qu'on veut contrôler, chacune avec un look années 70, donc on parle des gros favoris, des choses comme ça, le maquillage là, extravagant là, des années disco finalement.
Y a-t-il une tête avec un afro?
On ne peut pas vraiment s'enfermer dans un casque. Fait que,
l'afro dans le casque, tu ne verrais pas la tête.
C'est dangereux.
Mais c'est aussi un jeu parfait pour Divan Quest, avec le gros sous-entendu phallique qui est présent dans le jeu autour de l'expression anglaise « giving head », qui est de faire une fellation finalement en français.
Moi, je pensais qu'il allait juste faire un gag de divan brun parce que c'était ça l'idée.
Non. Un gag de coq.
Oui. D'ailleurs, les escape pods, donc les fusées qu'on utilise pour se sauver chacune des stations spatiales à la fin des tableaux, ont la forme d'un long cylindre avec deux moteurs en forme de boule à la base. Et la tête qu'on contrôle s'accroche à l'avant de la fusée. Donc, alors voilà, plus un à notre indice de JBM pour l'épisode 28.
T'sais, à l'épisode 26, on faisait une référence au fait que j'avais fait un gag beaucoup trop comme blunt, beaucoup trop direct. C'est pas si pire, finalement.
Il y en a qui font faire du concept art, qui font « ouais, ça c'est un bon choix », puis qui le réalisent, puis qui le publient. Il y a vraiment comme... Ils ont eu la chance là, de l'enlever. Là.
Mais c'est partout au travers le jeu. Là. De la musique d'ascenseur au début, avec tous les innuendos que les autres personnages vont dire autour quand tu parles avec les NPC à travers le jeu. C'est très tongue-in-cheek. Là, puis le gag de JBM est jamais très, très, très loin. Mais il y a un sentiment qui est extrêmement bien recréé dans le jeu. C'est une ambiance que les développeurs voulaient aller chercher. C'est une ambiance que j'appelle du lo-fi sci-fi, en fait. Donc, j'ai déjà parlé l'an passé sur le podcast, la différence entre la science-fiction des années 60 puis celle des années 80-90. Donc, dans le fond, quand on passait de l'optimisme des voitures volantes au cynisme de Mad Max, finalement. Entre les deux versions du sci-fi, ben, il se trouve les années 70. C'est un moment où les auteurs ne semblaient pas vraiment saisir l'impact que toutes les nouvelles technologies qu'ils entouraient, comme l'ordinateur ou les Webernet, allaient avoir sur notre société. Si on prend l'Alien de Ridley Scott, par exemple, qui est sorti en 79, mais le film, il présente une disparité technologique incroyable qui penche vers le ridicule en nous présentant, d'entrée de jeu au début du film, des ordinateurs monochromes avec des imprimantes sérielles entourées du bruit des enregistreuses à ruban. Puis pendant ce temps-là, parmi l'équipage du Nostromo, ben on retrouve un androïde dont l'apparence puis le fonctionnement le rend pratiquement indistinguable du reste de l'équipage humain. Donc, c'est un jeu qui vient se placer à ce genre de moment-là dans notre histoire de science-fiction où on est au courant des technologies qui s'en venaient, on était capable d'en imaginer, mais notre réalité moderne nous gardait dans quelque chose de beaucoup plus groundé. Donc, on est un peu à low-fi, sci-fi. On est en deux mondes.
Le même buzz que, même si c'est pas du sci-fi, mais que Star Wars.
Un petit peu.
Il y a à peine d'ordinateurs, mais on a des droïdes capables de penser autonomes.
Puis de personnalité.
Oui, exactement.
Donc, Headlander, on parle d'un jeu en 2.5D, donc un Metroidvania dans la lignée de Shadow Complex, dans le fond, qui est en deux dimensions, mais avec toutes les composantes sont en trois dimensions. Et il y a différents contrôles. Le premier contrôle qu'on apprivoise, c'est la tête, finalement. C'est et ça. Les autres contrôles, c'est les robots. Donc, la tête est munie d'un jetpack. Donc, elle peut se déplacer là, comme on veut. Et l'autre système qu'on va utiliser, c'est son tractor beam, une sorte de balayeuse qui permet d'aspirer la tête des robots pour prendre le contrôle. Donc, il faut vraiment aller sucer la tête des robots pour prendre la place. Puis là, on peut contrôler le robot. Il y a aussi un système de laser qui permet différents upgrades, là, comme un shield, des choses comme ça, puis qui vient jouer dans tous les puzzles à travers le jeu. Les robots qu'on contrôle, ben, ils vont avoir différentes armes sur leur corps. Donc, il y en a qui ont différents, soit des plus précis ou qui vont tirer comme des shotguns, choses comme ça. Et ils ont différentes couleurs qui vont leur permettre d'ouvrir différentes portes qui sont codées en fonction d'un code de couleur. Donc, les portes rouges font un robot rouge, les portes jaunes, un robot jaune.
Et les portes vertes?
Ben, un robot vert.
Ah, OK.
Qu'est-ce que tu penses?
Je suis sûr.
C'est d'un coup, ça aurait changé.
On est années 70. Fait que c'est juste une palette de brun.
Ouais, c'est ça. Pas vraiment vert.
Pas vraiment vert.
Robot beige, porte beige.
Beige?
Beige.
C'est pas vert, c'est kaki. puis évidemment, c'est ce qui va inciter de revenir en arrière parce qu'il y a des portes que tu peux pas ouvrir, que tu vas trouver un robot plus loin au temps de voyager à travers tout le tableau pour venir y accéder. Mon expérience avec ce jeu-là, ben, je pense que le meilleur commentaire que je peux donner, c'est que c'est juste super le fun. Genre. Au niveau du gameplay, on n'a pas réinventé la roue. Là, c'est un jeu comme il y en a plein qui ont été faits dans le même style. Il est quand même bien réussi. Mais c'est tout les innuendos, les gags, la musique, l'ambiance, le look visuel, tout ce qui vient se mettre en auto comme ça.
Oui, puis on sait ici que sur Divan Quest, on n'aime pas ça, les innuendos puis les gags de.
Pas du tout. Mm-hmm. C'est un jeu qui était fait tout particulièrement pour nous.
Et pour tous ceux qui ont un humour aussi mature que le nôtre.
Voilà. Et voilà. Il y a tellement de mécaniques différentes dans le jeu avec les différents robots qu'on peut contrôler qui apportent chacun leur petite saveur différente. Ça permet un super grand éventail de puzzles. Fait qu'on se tanne pas, puis c'est facile d'en rajouter. Fait qu'on va pas souvent revenir des mêmes mécaniques. Il y a beaucoup d'humour, particulièrement dans les dialogues avec les robots, justement, qui habitent les différentes stations spatiales. Les tapis ont l'air réellement confus. Ça me donne envie de redécorer mon salon. Mais j'ai un petit bémol, par exemple. Le système de combat, il est un petit peu difficile à maîtriser. Il n'a pas été très, très poli, j'ai l'impression. Fait que malgré un système, il y a un système de cover, de base, où on peut se cacher derrière certains obstacles. Puis on a même une façon de voir où nos tirs vont se diriger. Fait que ça nous permet de viser quand on est caché derrière le cover. Mais malgré tout ça, j'ai souvent opté pour l'option de rester debout dans le milieu du firefight puis juste tirer comme un malade, tant que tout le monde soit mort. Parce que de toute façon, ben, on manque pas de robots à contrôler. Puis tous ceux que j'ai tués autour, je peux les prendre et partir avec. Fait que le combat n'était pas super facile à maîtriser. Peut-être que je vais finir par devenir meilleur en terminant le jeu. Mais ça n'enlevait rien à toute la richesse de ce jeu-là. Donc, ben finalement, si je devais coter le jeu en patte de divan, mais je pense que ma réponse, ça serait finalement juste ça.
Mais elle est là, l'actualité.
Ben ouais!
le site de nouvelles technologiques La Verge nous présentait au début du mois d'août le plus récent produit de la société chinoise Xiaomi. C'est votre seule réaction en entendant Xiaomi, c'est « Hein? » Sachez simplement que c'est le 5e plus gros fabricant de téléphones intelligents au monde, malgré que la plupart du monde en Amérique font « Hein? » en entendant le nom. Bon, le produit en question est un casque de réalité virtuelle pour téléphone intelligent universel, donc pouvant fonctionner sur la majorité des téléphones ayant des écrans entre 4.7 et 5.7 pouces. Appelé le Mi VR Headset, la compagnie va offrir à un nombre indéterminé de clients s'ayant inscrit à leur programme de bêta la possibilité d'acheter le casque pour seulement 1 yuan chinois, soit environ 20 cents en argent canadien.
Ben cher.
Maudite inflation. Le casque peut ressembler à bien d'autres du genre à deux détails près. Premièrement, le téléphone est tenu en place avec une fermeture éclair, choix un peu étrange, diront certains. Ouais, et la face de GF en dit long. Et deuxièmement, le casque est offert en plein de textures, incluant une imitation de jeans avec un zipper doré ou un imprimé léopard. Si jamais vous trouviez que ce qui manquait à votre expérience de VR, c'était d'avoir l'air d'avoir une paire de culottes de danseuse trappées dans la face, ne cherchez plus!
Il y a pas une version tapis brun à poils longs, shaggy.
Je leur envoie la suggestion.
Ça va être 23 cents, peut-être.
Maudite inflation. Alors, suite à la présentation de Civilization 6 au plus récent E3, il y a eu beaucoup de spéculations à savoir qui était l'acteur responsable de la narration.
We are the explorers. The inventors. The architects of change.
Est-ce qu'on a des guesses?
En tout cas, c'est pas moi avec l'accent. Hein? C'est qui?
Le candidat favori des internets web était Sean Bean, plus connu pour ses rôles de Boromir dans Lord of the Rings et plus récemment de Ned Stark dans Game of Thrones. Et après un peu de temps avec une version en développement du titre, le magazine PC Gamer a pu confirmer qu'il s'agissait bien de Monsieur Stark. Effectivement, il ne s'est pas seulement occupé de la narration pour la bande-annonce, mais également de la voix qui accompagne les accomplissements dans le Tech Tree. Ce faisant, le fils aîné de l'intendant du Gondor succède à Leonard Nimoy, qui occupait ce rôle dans le quatrième titre de la série.
Mais on aurait dû savoir, il a survécu. Il meurt avant la fin du trailer.
Bon, ben,
le narrateur fait.
Il a scrappé ma joke. Non, c'est sûrement un spoiler, là, mais il n'y a aucune maudite chance qu'il se rende à la fin du Tech Tree vivant. Là. Ah! D'après moi, aussitôt que tu découvres l'acier au Moyen-Âge, il y a quelqu'un qui y fait en pensant. Puis, petite note pour finir, Sean Bean a une moyenne de 0,32 morts par film.
Ah, c'est quand même pas pire, tu sais.
En juillet dernier, une équipe de scientifiques du Kavli Institute of Nanoscience de l'Université de Delft, c'est aux Pays-Bas, c'est pour ça que c'est pas prononçable, a démontré une nouvelle méthode de stockage de l'information en stockant 1 kilobyte de données où chaque bit était représenté par la position d'un seul atome de chlore. Ils ont même réussi à atteindre une densité de stockage de 500 terabits au pouce carré, soit 500 fois supérieure que les meilleurs disques durs présentement disponibles. Sander Otte, le chef du projet, a vulgarisé le tout en disant que l'entièreté des livres écrits dans l'histoire humaine pourrait être contenue sur un timbre POS. Il a par contre tenu à préciser par la suite que, malheureusement, il n'y a pas assez d'atomes de chlore dans l'univers pour inscrire une transcription complète du segment Shadowrun de l'épisode 7 de Divan Quest. Même la science a ses limites.
On va-tu le clore un jour ton segment?
On va-tu le clore?
Oh! Ouais, je sais pas.
Je sais pas penser.
Ensuite, j'aurais continué dans le dernier épisode vu qu'on manquait de temps. Tu sais, ça aurait peut-être,
On aurait pu tirer un peu, hein?
Je vous en ai parlé dans les deux derniers épisodes. Hein, j'en ai même parlé, je pense, plus tôt que ça, il y a quelques mois, quand j'ai appris l'existence de ce jeu-là.
Shadowrun, ça?
C'est... Non. Donc, aujourd'hui, ben, finalement, je vous parle de ce jeu-là pour de bon, pour vrai, en long, en large et en nostalgie. Je vous parle de I Am Setsuna. C'est un jeu qui a été développé par le studio Tokyo RPG Factory, qui est un studio qui a été créé par Square Enix, finalement, puis publié justement là, par ce dernier, ou cette dernière, là, c'est une compagnie. I Am Setsuna, pour ceux qui n'auraient pas encore deviné, c'est un RPG. Ou pour ceux qui sont familiers, là, un peu plus en détail, c'est un JRPG, là, un RPG japonais finalement, là, qui a comme ses petites particularités. Donc, on y retrouve Setsuna, qui, dans un monde assez glauque, là, a été choisi pour être un sacrifice qui, comme tous les sacrifices avant elle, doit entreprendre un long voyage qui va l'amener de son village jusqu'au Last Lands, où sa mort va apaiser les monstres qui attaquent le monde, puis permettre ainsi au reste du monde un peu de paix. Ouais, ça donne déjà le ton au jeu. Ça donne le ton au jeu, mais c'est pas tout. Hein. Au tout début du jeu, notre personnage, ou ben, notre personnage, le personnage, mettons, le premier personnage qu'on contrôle, si on veut, est engagé comme un mercenaire, oui, pour se rendre dans le village de Setsuna pour l'assassiner avant qu'elle ne commence son voyage comme sacrifice.
Ça donne le ton.
Ça donne le ton. Finalement, on le fera pas parce qu'elle va nous convaincre plutôt de l'accompagner jusqu'à ce qu'elle puisse accomplir son destin, oui, et mourir comme sacrifice dans les Last Lands avec comme argument, ben, je vais être morte anyway. On est loin de l'humour de Shaggy, de Headlander.
Si je répète mon segment, on peut le recommencer tout de suite, ça ne dérange pas.
Donc, pour ajouter à cette atmosphère-là, là, ultra glauque du jeu, le monde est entièrement recouvert de neige, partout. Donc, il y a de la neige partout. Dans le jeu, ben, on rejoint la garde de Setsuna pour l'aider à se rendre dans les Last Lands. Puis, comme dans tout bon RPG, on ne pourra pas se rendre directement en bateau là-bas. Hein, on part en bateau, mais le bateau, il crash. Fait qu'on va devoir parcourir le monde en entier pour y arriver, en rencontrant en route différents compagnons qui vont nous accompagner. Il y a un gars qui était dans la garde d'une ancienne sacrifice. Il y a un jeune qui fait partie d'une tribu qui sont très, très, très forts avec la magie, mais qui ça fait qu'ils meurent très, très jeunes. Donc, généralement, ils se débarrassent de leur pouvoir, mais lui, il va les récupérer pour... Bref, tu sais, des personnages un petit peu très diversifiés puis assez intéressants. Il y a même des personnages qu'on n'est pas trop sûr de qui ils sont quand on les rencontre puis on en découvre un peu en avançant. Bref, c'est vraiment un côté intéressant. Les personnages sont assez bien définis. J'irai pas beaucoup plus loin dans l'histoire, principalement pour pas rien spoiler, là, parce que c'est quand même un RPG, puis la moitié du fun d'un RPG, c'est l'histoire. Quand c'est un bon RPG, là. voilà, le jeu est quand même assez récent aussi. Et rendu où je suis, de toute façon, là, à part quelques petits indices, quelques doutes sur ce qui pourrait s'en venir, l'histoire de base est encore semi sur les rails. Il n'y a encore rien qui s'est passé qui a tout foutu à terre. Je m'attends à ce que ça s'en vienne. Ça serait bien poche qu'à la fin du jeu, la fille, elle meurt. Pis... Oh, ben,
c'était ça.
C'était ça. Donc, ça n'a pas encore changé. Il y a des indices, des trucs, mais... Où est-ce que j'en suis? On en est là. En même temps, ben, si je veux être franc, au départ, le jeu, c'est pas tant l'histoire qui m'a donné le goût de jouer. Je veux dire, tu sais, pas le goût de me taper une dépression avant de recommencer de travailler. Là. C'est pas ça l'idée. C'était vraiment plus le côté où Setsuna a été développé pour recréer, rendre hommage, recréer là, les jeux de l'âge d'or des JRPG, les jeux de Super Nintendo. Donc, il a été développé avec cette idée-là en tête, là, de faire un jeu similaire, si on veut, aux gros titres de l'époque, de Squaresoft puis de Enix, là, avant qu'ils fusionnent pour devenir Square Enix. Donc, on pourrait penser à Dragon Quest, là, à ne pas confondre avec Divan Quest. Hein. c'est les mêmes initiales, mais ça s'arrête là. Final Fantasy, Chrono Trigger, principalement ce dernier-là, là, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent, je vais en reparler plus en détail tantôt, mais l'idée était vraiment de repartir de ces jeux-là, puis de nous sacrer en pleine face notre nostalgie pour cette époque-là.
À grand coup de nostalgie dans la gueule.
Grand coup de nostalgie dans la gueule. En dehors de notre univers là, super sombre, puis l'histoire assez classique où est-ce qu'on part d'un petit village creux pour parcourir la planète puis sauver le monde, là, un peu comme Jeff parlait dans sa réflexion de la semaine passée, là. Tu sais, ce bout-là est assez commun. On retrouve quand même un paquet d'éléments qui sont directement prélevés là, des vieux classiques. Puis je vous dirais que si c'était pas de la même compagnie, on aurait un gros problème de copyright infringement, là, de violation de droits d'auteur. Je parle de quoi concrètement? Ben, c'est un jeu en perspective, là, vu de haut en angle, le top-down angled view. C'est sûr, là, tu ne poursuis pas pour ça. Là, c'est assez commun à ce genre de jeu-là. Ça te permet d'avoir une bonne vision de la carte et tout ça. Dans le fond, les jeux, si on veut, de la fin du Super NES avaient un peu cette idée-là où est-ce qu'il y avait quand même de l'angle, puis il y avait une trois dimensions qui, une semi-trois dimensions, si on veut, qui apparaissait pour se déplacer. On se promène dans des villes, puis quand on sort, on se retrouve sur une world map sur laquelle on peut se promener d'un endroit important à l'autre, là, entre les villes puis les différents donjons. Là. Quand je parle de donjons, ben, je parle de forêts, de cavernes, de montagnes. Là. On appelle ça des donjons parce que c'est là qu'il y a des monstres, mais... Fait qu'on se promène sur une world map entre les points importants. Dans les villes, ben, on jase avec des NPC, on magasine nos items, on achète des potions, des éthers, des antidotes, des remedies, des tents. Donc, on retrouve là, les items classiques qui font la même chose qu'ils faisaient depuis toujours. T'sais, pas besoin de te poser comme question, fais quoi une potion, tu le sais. Puis t'as les mid potions puis les high potions qui suivent. Puis
t'as les tents que tu peux utiliser aux endroits prévus à cet effet ou sur la world map.
Voilà.
Et voilà, c'est comme, j'ai pas joué, mais c'est ça.
Puis après les tents, parce qu'à un moment donné, ils te remplissent pas au complet ta vie, t'as les cabines.
C'est comme une chanson à répondre de RPG.
C'est ça, on sent comme dans nos vieilles pantoufles. T'as pas besoin de te poser trop de questions. Je pensais pas en parler au départ, mais les NPC sont quand même très intéressants parce qu'ils interagissent avec toi comme n'importe quel NPC de RPG. Là. Genre, t'arrives dans une ville, il va te dire toute la même chose. Mais quand l'histoire avance, il y a quand même des dialogues qui vont changer. Tu vas te retrouver à un endroit où est-ce que tu t'en vas dans une ville, tu parles au monde, et un bûcheron qui te parle, qui coupe des arbres, nanana. Puis là, t'as comme un élément qui te dit, bon, ben, il faudrait trouver tel gars. Fait que là, tu reparles au monde, mais c'est comme si tu leur posais la question par rapport à ce gars-là. Puis, j'ai pas vu passer un type de même. Ah, j'ai pas vu passer quelqu'un qui sifflotait en parlant, puis là, il y en a un qui va dire « Ah oui, je l'ai vu, il est passé par là. » Tu sais, c'est quand même intéressant de voir que les dialogues vont changer avec la progression de l'histoire, ce qui est quand même mieux que dans certains
RPG. Plus moderne plus comme moderne, design. Ouais.
Fait que c'est le fun pour ça. On peut quand même... on s'éloigne quand même pas mal plus des Final Fantasy là, quand on parle du combat. Pas de random encounters, de rencontres au hasard. On pourrait crier notre joie là-dessus, ça serait...
Ouais, parce que les ennemis sont visibles.
Mais voilà. Donc, pas de random encounters, ni sur la carte du monde, ni dans les donjons. Sur la carte du monde, tu peux te déplacer, il se passerait jamais rien. C'est vraiment pour se déplacer.
Donc, comme Chrono Trigger.
Voilà, comme Chrono Trigger. Des fois, c'est un peu long parce que quand tu marches, c'est comme. Mais c'est pas non plus interminable. Puis ça te permet de voir le monde triste et sous la neige. Puis d'entendre de la musique quelque part. Là, j'y reviens un petit peu tantôt. Donc, pas de rencontre au hasard. T'arrives dans les donjons, dans les maps de donjons. Même chose, c'est pas au hasard. Les monstres sont déjà sur la carte. Tu les vois, ils sont visibles. Donc, on s'approche de Chrono Trigger beaucoup de cette façon-là. Là. Les monstres sont là. Quand on s'en approche des monstres, ben, on va transitionner vers un mode de combat. Mais la transition, elle est comme instantanée. Il n'y a pas de loading ou rien. Ça se fait sur la même carte. Là. Quand je parle de transition, c'est juste que les personnages vont se placer puis les monstres vont se placer un petit peu. Ils bougent là, des fois là, pour être... placé d'une façon ou d'une autre, en fait, puis c'est tout. Là. Le combat, il part, ça prend même pas une seconde, on est parti. Le combat, lui, va être géré selon le Active Battle System qui est dans les derniers Final Fantasy, puis dans Chrono Trigger, était là, où, dans le fond, on a une petite barre de temps qui apparaît, qui grossit, puis quand elle est pleine, ben, on peut attaquer, on fait nos actions. Puis le mode de Active ou Wait, qui était là aussi, le mode Active, qui fait que ben, si tu es dans ton tour, puis tu fais rien, les monstres, eux autres continuent de faire leur tour puis de te tapocher. Quand dans le mode wait, ben, dès que tu es en train de chercher une action, tout ça s'arrête pour que tu puisses chercher. Tu sais, c'est des trucs assez classiques. C'est des options qu'on connaît. Puis ça nous ramène à l'époque. Là, en même temps, c'est efficace comme système parce que quelqu'un qui n'est pas trop habitué peut mettre en mode wait. Quelqu'un qui veut le jouer un peu plus action, il met en mode actif. Ils ont gardé ce qui était bien. Quand c'est le tour d'un personnage, ben, nos actions habituelles sont là. On peut attaquer. Il y a les techs qui sont un peu les magies, les items. Quelque chose d'un petit peu nouveau, par exemple, qui est différent. Il y a une autre jauge qui nous permet d'utiliser ce qu'on va appeler du momentum pour booster nos attaques ou nos défenses. Un peu comme dans Mario RPG. J'en avais déjà parlé là, quand je parlais aussi de ma persona le faisait. Donc, on va pouvoir, à un moment comme précis, appuyer sur un bouton pour booster nos attaques ou booster nos défenses quand on se fait attaquer. Le seul truc, dans Mario RPG, ça marchait tout le temps. Tu ne posais pas de questions, tu le faisais, puis quand tu avais le bon timing, ça le faisait. Ici, il faut que tu aies un point de momentum de disponible. Dans le fond, ces points-là vont apparaître quand la jauge va être pleine. La jauge se remplit quand tu attaques ou quand tu c'est rendu à ton tour puis tu fais rien.
Oh.
À ton tour, si tu laisses le temps passer, ça va se remplir. Fait que ça devient un petit peu une stratégie de dire ben, « Est-ce que je fais juste taper les monstres ou ben, je vais attendre que mon momentum se remplisse puis je vais pouvoir faire une attaque qui va être plus forte ou qui va des fois même attaquer plus qu'un ennemi. » Fait que ça devient une petite gestion stratégique. Donc c'est ça, tu peux aller chercher, là j'oublie, c'est 3 ou 4 points de momentum au maximum. Parce que généralement, je les utilise assez rapidement, fait que j'ai pas pris le temps d'en accumuler une quantité incroyable, mais on peut en accumuler quand même quelques-unes pour pouvoir les... C'est une ressource de plus à gérer là, qui rend ça quand même assez intéressant. Autre petit parallèle avec Mario RPG, là, qui est un jeu de Squaresoft aussi. Je sais pas si c'était juste Square à l'époque, là, j'ai oublié.
Le Squaresoft.
Ouais. Dans Mario RPG, quand on arrivait en arrière des monstres ou on leur sautait sur la tête, sur la map, ben, ça nous donnait un avantage dans le combat. Dans Mario RPG, ça donnait un coup tout de suite. Ici, si on le fait puis on arrive dans le dos des monstres puis ils nous voient pas arriver, ben notre jauge de ATB va être pleine, donc on va pouvoir faire une action tout de suite dès le début du combat, puis on va avoir un point de momentum déjà d'atteint. Fait que c'est quand même bien pour des petits ennemis, surtout là, tu peux arriver dans le combat, t'as déjà du momentum, c'est ton tour, paf, 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 t'es dessus, c'est fini, ça va vite. C'est quand même le fun pour ça. Puis les ennemis, quand ils voient, tu le sais qu'ils te font vu, là. Ils se mettent à capoter, à bouger leurs bras. Puis même si tu t'éloignes, à moins que tu t'éloignes quand même pas mal, pour essayer de revenir, ils se rappellent que t'es là. Fait que c'est quand même cool. Là. C'est de voir les petits lapins. Avec des grosses boules ses oreilles qui s'énervent. Là. C'est très drôle. Les techs, là, les magies, là, en fait, ils s'appellent les techs, proviennent, pour en tout cas, pas toutes, parce qu'il y en a des nouvelles, mais il y en a une grosse partie qui proviennent directement de Chrono Trigger. Là. C'est pas des faces, là, ils ont le même nom. Là. Tu vas faire Cyclone, tu vas faire Aura, tu vas faire fucking Luminaire. Là.
Sur 10, t'étais excité comment?
Quand j'ai eu Luminaire, ouais. 17, je pense.
Parce que, c'est pas pire. Il s'est retenu.
Je veux pas trop spoiler, mais Luminaire, ce qui est cool, c'est que tu l'obtiens par le jeu, avec une interaction avec un personnage qui va se faire, puis elle te l'apprend. Genre, comme live, elle te l'apprend. Puis après ça, ben, là, tu retombes dans les systèmes du jeu, tu as la technique, tu peux l'équiper, mais tu sais, c'est
son apprentissage fait partie de la narrative.
Ouais. Fait que oui, les techniques ont le même nom. Écoute, comme dans Chrono Trigger, on peut faire des combos aussi, faire des techniques à plus qu'en même temps. Puis là, bon, quand tel personnage a telle technique, puis telle technique, tu peux faire tel combo, tel double ou triple même, là. Puis encore là, le niaise pas avec le POC de la nostalgie. Là. Je pense que c'est dans le premier combat, si, en tout cas, c'est pas le premier, c'est dans les premiers au tout début. On peut faire un X-Strike. Pour ceux qui ont joué à Chrono Trigger, yes. X-Strike, c'est un des combos les plus connus, même si c'est pas un des plus forts.
Mais tellement satisfaisant.
Où les deux, ben là c'est Chrono puis Frog à l'époque, partent, slash le même ennemi, puis ils partent de chacun leur point, puis le splash, donc ça fait comme un X sur l'écran. T'as la même technique au début du jeu, dans cette tuna, j'ai comme. Oh yes, ça fait un X.
Ça vient de payer le prix d'entrée du jeu immédiatement. Cool.
Take my money, là.
T'as de l'argenteur devant TV chez Dan.
Prenez mes guilles.
Par contre, contrairement au classique, on n'apprend pas nos magies en montant de niveau comme dans Final Fantasy. Ouais, peut-être pas les derniers, mais dans les plus vieux. Ou par des points d'expérience ou des points de tech comme dans Chrono Trigger. On va les apprendre en échangeant certains objets à des vendeurs spécialisés. Donc, il y a un système qui est là. Puis, j'en reparle dans d'autres parce que le système est assez intéressant. Sinon, une fois qu'on a acquis ces magies-là, ces techs-là, ben, ça marche un peu sur le même principe que les matériaux dans Final Fantasy. Tu les équipes dans certaines pièces d'équipement. Dans le fond, tu as des endroits, tu as des slots, t'as des endroits pour les équiper qui viennent de ton niveau. Fait que plus tu es au niveau, plus tu as de possibilités de mettre des magies. Puis, il y a des items que tu trouves aussi que tu peux en rajouter. Donc, ça fonctionne un peu sur ce principe-là. C'est pas une coïncidence là, si le jeu ressemble si le gameplay est si semblable que ça à mon jeu préféré. Puis si vous entendez mon excitation réelle et j'allais dire sexuelle, là, si, presque.
tangible.
Tangible.
Palpable.
Ah. Le directeur du jeu, Atsushi Hashimoto, a expliqué qu'ils ont rejoué à Chrono Trigger pour mesurer les distances dans le jeu, pour mesurer les vitesses de combat. Ils n'ont pas rejoué pour, comme moi, pour le fun. Ils ont joué pour aller voir le pacing du jeu, comment ça se faisait. Puis, je suis certain que si tu prends le temps, tu te rends compte qu'un combat prend le même temps dans Setsuna que dans Chrono Trigger, le même nombre d'attaques, puis que les villes ont la même distance sur la map, puis prennent le même temps, genre en termes de pas de personnages pour se rendre. Je pense que ça va jusque-là. Ils voulaient vraiment que ça feel comme le successeur spirituel du jeu, sans que ça soit dans le même univers. Là. C'était ça l'idée. Il n'y a pas de lien direct au niveau de l'histoire entre les deux jeux. Mais tu le sens. Là.
Mais c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est que ça aurait été tellement facile d'essayer juste de comme, let's go, on y va 16 bits, on revisite l'univers. C'est comme, non, la formule fonctionne, puis je pense qu'elle peut fonctionner dans une autre histoire.
Mais je pense que c'est ce qu'il voulait faire, puis j'en parlais pas vraiment, là, mais dans une autre entrevue, il disait que le prochain jeu serait fort probablement pas une suite à Setsuna. Ça serait un autre univers, un autre monde, puis il risque probablement de réutiliser des mécaniques, puis tout ça, parce que, mais Colin, ça marche, puis le monde aime ça, là. Mm-hmm. Je l'ai dit, là, j'ai trop souvent joué à Chrono Trigger. Là. J'en ai parlé tantôt.
Ah, mais c'est un type de RPG qui est sous-servi.
Ben, qui est très peu utilisé. Puis la suite directe de Chrono Trigger, Chrono Cross, n'utilise pas le même système du tout.
Puis encore là, c'est un hommage à des mécaniques de jeu solides qui sont capables de garder, de porter un jeu sur
leurs épaules. Puis qui réussit à nous faire progresser dans une narrative qui là est aussi super intéressante à suivre. Là.
Ah, c'est comme s'il n'y avait pas eu genre de first-person shooter depuis 10 ans, puis quelqu'un qui fait comme « Hey, c'était le fun, un FPS! » Ça arrivera pas, là! Mais,
10 minutes, tu parles, toi!
Hey! Ah, et non, c'est une heure ici! Tu viens, toi!
Ça fait longtemps que je joue à FPS. Doit faire au moins 10 minutes. Non, pas un nouveau. Mais voilà. Fait que oui, tu te sens comme si tu jouais à Chrono Trigger, mais dans un autre univers. Puis ça fonctionne très, très bien. Là. C'est hyper réussi. Différence notable là, au niveau de l'atmosphère du jeu, par exemple. Dans Chrono, on a beau essayer de sauver le monde d'un monstre extraterrestre qui démolit des planètes. Il y a quand même un peu plus d'humour. C'est moins dark visuellement. C'est beaucoup plus éclatant. Il y a des couleurs.
Malgré la prémisse très, très, très opposée. Là.
Ouais, ouais. Ben, tu sais, tu pars, tu veux sauver le monde. La différence dans Chrono Trigger, c'est que tu sauves le monde en voyageant dans le temps. Fait que t'as pas l'espèce de sentiment de.
Ouais, c'est ça, ça enlève la tension de dire, ben, on peut voyager dans le temps. Fait que faut aller le sauver à cette époque-là. On ira tantôt.
Faut aller le péter là, avant qu'il détruise la planète en 99. C'est notre deadline.
Ouais, c'est voilà.
Mais notre deadline.
Il est flexible.
Il est flexible, tu sais. Fait qu'au niveau de l'atmosphère, c'est différent. Mais au niveau du gameplay, il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances, là. Ça a beau être très, très fortement inspiré de nos classiques, c'est quand même pas non plus tombé dans le piège, comme tu disais, de juste leur skinner. Puis pas juste visuellement, là, il aurait pu leur faire en 16 bits, ça aurait pu être bien intéressant aussi. Mais au niveau des mécaniques de jeu, ils sont allés plus loin. Là. Il y a des trucs qui sont différents. Il y a, première des choses, puis on dirait que juste ça donne quelque chose d'assez intéressant. Les monstres ne drop pas d'or.
Hein? c'est pas le drop, là, c'était
moi.
C'était moi.
Tu sais, ça a tout le temps été weird pour moi. Tu te promènes, tu tapes un scorpion dans un désert, il drop 1267 gil.
Oui, mais c'est parce qu'ils ont ramassé l'autre aventurier d'avant qu'il a tué.
Ouais, c'est ça, ils ont mangé. Puis,
ouais.
Non. Okay. Dans cette tournée, les monstres, ils droppent des choses, ils droppent des items, principalement genre de la fourrure, des griffes, des bouts de branches. Tu sais, des trucs que. Une bébite que tu comprends qui est semi-humanoïde, peut-être un peu intelligente, aurait peut-être pu ramasser dans le bois. Là. L'affaire qui a l'air d'un ours, tu comprends qu'elle a l'air de se défendre puis de se placer. Ça se peut qu'il y ait des bouts de branches puis des roches brillantes, des affaires de même. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont des trucs que tu pourrais ramasser dans la nature. Mm-hmm. Bon, il y a une couple d'autres items, là, genre un Broken Stopwatch ou une Transparent Blade.
Sure.
Mais tu sais, à la limite, ils ont ramassé ça quelque part d'un aventurier. Si je suis une créature semi-intelligente ou quelque chose qui brille, ça se peut que je la garde. T'sais. Mais c'est pas. Un troc-l'autre d'argent, puis une épée deux mains, puis...
Ouais, c'est ça. C'est comme, yes, un épée deux mains, c'est une marmotte.
Hein, t'es chance que ça t'en est pas servi.
j'ai été élevé par... Moi, j'ai été élevé là-dessus, puis je vois que je vois
un roadkill,
j'arrête de voir si c'est pas quelque chose. Je vais souvent à l'hôpital.
Ah, c'est pour ça que c'était long, vous en venez tout à l'heure.
Il n'y avait pas de trafic, il y avait des roadkills. Donc, c'est ça, il ramasse ces items-là, puis c'est ces items-là la fourrure, les choses que tu vas revendre dans le fond à une guilde là, qui te l'échange contre de l'or. Fait que là, tu ramasses de l'or pour acheter les items et tout ça. Mais c'est eux qui te l'échangent. Puis c'est... dans le fond, ce or-là peut te servir à acheter les talismans qui te servent à équiper tes techs, là, les spirinettes qu'ils appellent, ou est-ce que qui nous servent les magies, les items, les potions et tout ça. Donc, on a de l'or qui nous vient de ce qu'on vend c'est pas que par magie, elle apparaît pas dans nos poches parce qu'on a tué un scorpion, tu sais. Donc ça, c'est quand même le fun. Les spirinites qui nous apprennent les magies coûtent pas d'or, eux autres. On les achète pas que de l'or. Pour les obtenir, ben, c'est ce vendeur-là à qui on va vendre les items qui va nous les échanger, si on veut, contre certains items. Fait que, OK, tu veux la spirinite pour faire fire, ben, faut que tu m'aies donné deux branches de chêne puis trois bouts de fourrure noire, tu sais, puis...
Fait un petit côté très chaman. Là.
Quasiment, là, tu sais, c'est... Puis, dans le fond, t'as pas besoin de les garder, là. T'as pas à les garder puis attendre pour les trader. Tu y dompes tout ton stock, là, puis ça garde en mémoire ce que tu as donné, tu sais. Fait que là, t'arrives plus tard, pis tu dis, bon, ben, je vais avoir telle magie. Ah, il manque tel item. Quand je le trouverai, je reviendrai, mais il y a déjà le reste qu'il faut, ben, j'ai donné, tu sais. Mm-hmm. Fait que il y a ce petit côté-là, puis oui, le petit côté comme chamanique de, ben, je prends des items que tu viens des monstres, puis je t'échange ça contre des magies, ben, quand même intéressant. Là. Bref, c'est quand même relié au drop, là. Tu sais, la mécanique de je tue des monstres, j'ai de l'or pour acheter des items est encore là, mais avec un intermédiaire qui rend ça réaliste, là, disons-le avec des guillemets, mais qui...
Moins absurde.
Moins bizarre, là. Tu sais, je trouve que ça... En tout cas, moi, je trouve que c'est le fun. T'sais, ça m'a fait sourire en disant, hey, on évite l'affaire weird, puis qu'on accepte, là, dans n'importe quel jeu, on l'accepte. Ça fait assez longtemps qu'on l'utilise, cette mécanique-là, qu'on l'accepte que les monstres nous droppent de l'or, puis... Mais... C'est ça. Ce qui le rend aussi assez différent oui, de ses prédécesseurs, ben, c'est que c'est pas un jeu qui nous demande de grinder.
Ouais, ça, aujourd'hui, ça passe moins. Hein? C'est...
Moi, j'applaudirais là, si je m'étais mis un drop pour applaudir. Là, j'ai pensé. En tout cas, t'es pas faire lui. Do what you want, cause a pirate is free.
You are a pirate. J'accepte.
Aucun problème avec ça.
Donc, pas de grinding. J'ai 15 heures de jeu de fait. Je suis rendu pas mal vers la fin, il doit pas me rester grand chose à faire, là, ça je le sais. Puis j'ai, je vais mettre des guillemets, là, pratiquement jamais été obligé de grinder. Là. Je vais expliquer le pourquoi, le pratiquement, puis le presque jamais. Mais j'ai jamais fait des levels. Là. J'ai pas dit, ah, je pensais fort, me tourner en rond, à faire des monstres. Là, puis comme ça,
c'était un beau moment de radio.
Ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. T'sais, fait que le seul moment.
Ça va aller dans la compilation, dans le dernier épisode de l'année.
Oh, mais c'est pas drôle, son lit setup. Là.
Fait que quand je dis presque jamais, c'est juste qu'à un moment donné, je suis arrivé à un boss qui se mettait un regen dessus, qui le healait plus que j'étais capable de le faire.
Ouais.
Puis là, j'avais pas les maths pour faire le spell des spells, mais je savais qu'il était disponible. Le gars dans son inventaire, il l'avait. Fait que là, j'ai fait comme bon, il faut que je trouve les maths qui me le donnent. Puis c'est le seul moment où est-ce que j'ai revenu en arrière un peu plus loin.
Ça m'a pris une seconde quand t'as dit maths la première fois pour dire que c'est les matériaux.
Vous avez venu d'un prof de maths, c'est quoi le problème?
Je joue pas assez à des MMO pour penser.
Désolé. Mais c'est les vocabulaires qui sont utilisés dans le jeu aussi.
OK.
Ça, tu me comprends pas.
Sauf que tu parles. Le but de parler du jeu, c'est pour du monde qui n'ont pas joué.
Je sais bien.
Hein?
Donc les matériaux. Fait qu'il manquait quelque chose. Puis tu sais, dans le fond, c'était même pas quelque chose de compliqué ou bizarre à avoir. C'était juste que, bon, pour avoir les matériaux, il y a différentes sortes de kills qu'on peut faire avec les monstres. Puis dépendant de la façon dont tu le monstre, on va avoir différents matériaux. Fait que tu tues le monstre, tu vas avoir minimalement ce qui drop par un kill normal. Mais si tu fais un kill par le feu, par l'eau, par le time, bon, les différents types de magie vont donner un matériau différent. Si tu fais un overkill où est-ce que ton dernier coup dépasse sa vie qui restait énormément, matériaux différents. Un exact kill va donner aussi un matériau différent. Si tu le fais un kill par un combo, va te donner quelque chose d'autre. Puis certains monstres sont des objets rares qui droppent un peu plus rarement. Puis dans le 15 heures de jeu, c'est arrivé une fois que je ne l'ai pas trouvé, c'est juste en faisant les choses normalement. Donc, c'est juste qu'il fallait que je fasse un exact kill sur un type de monstre que j'avais pas fait en passant le jeu. Puis bon, on va aller chercher, là, j'en ai besoin.
Mais ça, c'est le seul moment. Là. J'aime bien ça, ce genre de mécanique-là, où est-ce que chaque petit combat qui est à un moment donné, là, c'est pareil au même. Là. Mais là, il y a une raison stratégique de finir le combat d'une telle façon, donc de setuper comment tu vas faire le combat. Je trouve ça super le fun.
Ouais. Tu peux pas juste mâcher les boutons à travers.
Exact.
Ben, parce que... peux, mais tu vas te manquer beaucoup de matériaux.
C'est ça.
Ben, c'est ce qui s'est passé aussi, parce que j'utilisais souvent la même team, parce qu'on a tendance à faire ça. Ce qui a fait aussi que quand je suis arrivé, bon, j'ai décidé de laisser passer, puis je savais que j'allais arriver à un moment où est-ce qu'il me donnait un airship à un moment donné. Hein, c'est aussi un beau classique, on est un bateau volant pour se promener. Puis au même moment qu'on obtient ce bateau-là, ça je ne savais pas à l'époque, là, on obtient une clé qui s'appelle un World Key, qui nous permet d'ouvrir un paquet de coffres qu'on a vu en chemin qui était barré et qu'on ne le savait pas. Ça aussi, hein, ça s'est vu dans Chrono. Dans Chrono, on avait le même principe, tu obtenais le tu faisais comme charger ton pendentif, puis là, il y avait un paquet de portes et de coffres qui allaient s'ouvrir. Fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé de refaire un petit bout de chemin en arrière, ouvrir les coffres qui contiennent pas mal les armes les plus fortes du jeu. J'en reparle tantôt, il y a des petits trucs avec ça. Là. Puis j'ai décidé à ce moment-là de chercher les matériaux que j'avais pas. Fait que j'ai pogné les personnages que j'avais presque jamais pognés, puis j'ai fait des kills. ça n'a pas été très difficile de pogner ce qui me manquait parce que juste en retournant chercher les coffres, ben les monstres, on a beau les voir sur la map, sont pas tout le temps évitables. Il y en a que oui, mais il y en a que tu fais, bon, on va le tuer, puis là, tu le pognes par en arrière, puis tu t'es rendu level 30, c'est le deuxième monstre que tu as pogné au début, c'est pas long. Mais ben en faisant les kills avec genre l'eau que j'avais pas fait beaucoup, le light que j'avais pas fait beaucoup, ben je suis allé chercher un matériau qui me manquait, mais tu sais, avoir pensé à ça au début, l'avoir peut-être su au début, ben tu sais, chaque fois que tu arrives sur un nouveau type de monstre, tu changes un peu ton équipe pour le tuer une couple de fois avec les différentes magies que tu peux faire. Tu peux faire tuer une couple de fois par un combo, tuer une couple de fois par un overkill avec un debuff. Tu as couvert tes bases puis tu es correct. Tu n'as pas besoin de revenir en arrière. Puis, tu sais, tu n'es pas obligé de tourner en rond pour tuer ces mêmes monstres-là. Mm-hmm. Parce que le lapin que tu rencontres au début du jeu ou le lapin que tu rencontres à la fin du jeu drop le même stock.
Parce qu'il est le même type de monstre.
Parce que c'est le même type de monstre. Fait que tu n'as pas besoin de casser le pompon puis tu fais, ben, gars, j'en ai tué une couple avec du feu. Quand j'en reverrai, parce que tu vois ça à la map. J'ai tué des éclairs, puis, tu sais. Mm-hmm. Puis revenir en arrière, comme je disais, pour reprendre les coffres, là, peut-être pris une heure et demie, gros top. Là. C'est pas, il n'y en a pas 850 000. Si j'avais pensé à l'avance des notés, ça aurait été encore plus rapide.
Évidemment.
Parce que je n'ai pas pensé. Mais ils sont pas non plus creux dans le troisième sous-sol d'un donjon. T'sais, ils sont généralement de, ah, dans la petite passe que j'ai pris, ben, il y en avait un. Puis des fois, c'est plus rapide de repogner d'un bord ou de l'autre. Fait que c'est pas super long. Puis ça donne vraiment des items qui sont très, très cool. Qui sont très violents. C'est majoritairement les meilleures armes du jeu pour tes personnages, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre. Puis chacune des armes que tu trouves à ce moment-là du jeu, c'est un hommage aux armes de Final Fantasy Chrono Trigger. Là. Directement, puis c'est même marqué genre arme qui rappelle un héros légendaire. Fait qu'on sait que c'est pas dans le même monde, mais il y a le petit lien qui est là. T'sais, tu trouves une arme qui est. Bon, Setsuna utilise un chakram qu'elle lance, puis son chakram qu'elle pogne dans ça, ça a l'air d'une arbalète, c'est directement l'arc, l'arbalète de Marl. Fait qu'il y a un beau petit clin d'œil qui est là au personnage de Chrono Trigger. Ça n'a aucun impact sur le gameplay, autre que ben c'est un petit clin d'œil pour ceux qui jouent. T'sais. Fait que c'est quand même bien. Autre truc intéressant, comme je vous dis, je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois j'ai parlé d'un RPG vraiment sur Divan Quest, là. Ça donnait ça.
J'ai plus de 70 heures à mettre dans un jeu. Là. Même si les vacances arrivent.
Ah, il y a dans ça.
Donc, les vacances sont arrivées, sont passées presque, et j'ai effectivement pas eu 70 heures à mettre sur un jeu. Je parlais de Persona 3 Portable, qui est quand même relativement récent quand on regarde les RPG, mais qui est quand même un jeu de 70 heures à peu près. Là.
Mais il y a encore un marché pour ça. On n'est plus de ceux-là, mais il y a un marché pour ça.
Mais je pense qu'ils savent qu'il y a beaucoup de monde nostalgique de l'époque qui ont plus ce temps-là. Setsuna, de ce que j'ai pu lire là, au complet avec les quelques side quests, parce qu'il y en a très peu, environ une vingtaine d'heures.
Ouais, quand même.
Super.
y a-tu une replay value? Y a-tu une raison à jouer le jeu? Est-ce que même si tu l'as pas fini, est-ce que tu sais si.
D'après moi, non. Là.
Bah, autant que Chrono, je suppose.
Ben, dans Chrono, il y avait différentes fins. Puis ouais. Tout ça, il y a comme quelque chose à rejouer pour aller voir les différentes fins. De ce que j'ai lu, tu fais le jeu, tu as la fin, c'est fait, c'est fini, c'est réglé. Ce qui est correct aussi.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça. C'est... On n'a pas la même perspective là-dessus. C'est comme fine.
Ouais, c'est ça. T'sais, Chrono.
Je l'ai fait, je l'ai fini.
ODS, là, je l'ai pogné. Je vais vouloir faire toutes les fins parce qu'en plus, ça les unlock dans un menu. Là. Ah. Mais je pense que ça va peut-être réussir à me faire passer à autre chose. T'sais.
D'avoir une checklist.
D'avoir une checklist de fait de toutes les fins que je connais déjà. Là,
j'en connais une couple des complétionnistes de même. Puis du moment que la liste existe, il faut qu'elle soit remplie.
Ben, le pire, c'est que je ne suis pas hyper complétionniste, mais Chrono, c'est ça. T'sais. Mais là, je vais refaire la liste. Là, puis je. Ça va être réglé. Bref, non, je pense pas qu'il y a une replay value, mais en même temps, pour un RPG de 20 heures, là, moi, je suis assez à l'aise avec le fait que je le joue une fois. Puis, ben, si j'ai un peu le même amour que j'ai pour Chrono, moi, le rejouer dans une couple d'années juste pour le plaisir de le rejouer. Ce qui est pas impossible parce qu'à date, j'ai beaucoup de plaisir à jouer. Là. Donc, je reviens peut-être à quelques critiques qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux, sur les médias, pour ceux qui ont suivi. C'est un jeu où il n'y a pas d'auberge, ce qui est bizarre quand on compare aux autres jeux. Il y a juste de la neige partout. Les paysages sont vraiment pas diversifiés. Puis, il n'y a pas de minimap, pas de map non plus du monde. Fait que avant d'obtenir ton avion, tu te promènes d'une place à l'autre, ça va, là. Mais tu n'as aucune idée de ce que le monde peut avoir l'air. Puis même quand tu as ton avion, c'est vague.
La vue est restreinte.
La vue est assez restreinte. Puis, si tu pars, mettons, en con vers... dans un océan, là, je l'ai essayé, tu sais, dans les Final Fantasy, tu revenais, là, lui, il y a comme un mur invisible.
Oh.
Fait que, tu sais, c'est vraiment, t'es sur ton spot, reste là. Je sais pas pourquoi, c'est ce bout-là, mais en tout cas, Kotaku ont jasé avec M. Hashimoto. Ils ont posé des questions sur justement ces points-là qui dérangeaient la personne qui a fait les reviews sur Kotaku. Il dit, ben, pour la neige, c'est une décision de design pour vraiment amplifier l'atmosphère du jeu, le côté sombre, le côté triste de ces gens-là qui doivent vivre dans un univers où il y a des monstres. quand tu sors de chez vous, il y a des monstres. Il y en a moins quand il y a eu un sacrifice. Puis plus le temps avance, plus il y en a qui reviennent jusqu'à temps qu'ils décident d'envoyer un autre sacrifice, tu sais. Fait que c'est une espèce de cycle étrange avec les monstres. Fait que c'était pour amplifier cette atmosphère-là de tristesse puis de lourdeur. Mais ils ont compris que les gens aimaient la diversité dans leurs univers de jeu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient référence qu'en chrono, ben, tu te prends d'une époque à l'autre. Là. Fait qu'à l'époque préhistorique puis à l'époque de l'ère glaciaire, tu sais, c'est... Tu sais, ça a beau être très semblable dans le monde à cette époque-là, mais t'as des affaires extrêmement diversifiées. Pour les auberges puis pour la map, ils ont dit que c'était, encore une fois, une décision très, très consciente reliée à l'univers de Setsuna. Ils disaient que pour les auberges, mais tu sais, avec les monstres et la neige, en fait, il n'y a pas de gens qui voyagent dans cet univers-là. Il n'y a pas personne qui va d'une place à l'autre, à part les marchands puis les sacrifices. Donc, ils se sont dit, ben, dans un univers comme ça, où les gens ne voyagent pas parce qu'il y a des monstres qui restent dans leur village parce qu'ils se barricadent, y a-t-il quelqu'un qui peut vivre d'avoir une auberge?
Il va faire faillite.
Il va faire faillite? Fait qu'ils ont décidé que, tu sais, dans les villages, il y a des endroits, un lieu commun avec un cook, puis tu sais, tu peux acheter la bouffe, mais t'as pas le choix. Tu veux dormir, prends une tente. Mm-hmm. Tu sais, puis de toute façon, dans ces jeux-là, c'était tout le temps un calcul coût-bénéfice.
Et
là.
Voilà, c'était une ressource. Tu dépensais du cash pour acheter une tente ou pour aller dormir à l'auberge.
Puis généralement, passer la moitié du jeu, tu te rendais compte que ça me coûte moins cher d'acheter des tentes, j'irai plus à l'auberge anyway. Voilà.
4,30 sous pour une pièce.
Là. Fait que c'est simple, t'achètes des tentes, tu dors dans ta tente.
Mais je sais quand même que les développeurs aient choisi de suivre leur narrative puis de pas plier, mettons, à des demandes de
joueurs. Peut-être arrivé à l'envers, mais c'est validé.
Ils ont peut-être décidé de le valider comme ça, mais bon, tu sais, j'aime l'explication. Ouais. Pour la même chose pour l'autre point était... Ah, pour la minimap, ben, y a pas personne qui a voyagé assez pour faire une map qui avait de l'allure.
Ouais, ça, c'était un peu... Ça a toujours été méthode, carte d'un jeu.
Ben, c'est un peu ça aussi qu'ils disaient, tu sais, ça fait que tu regardes la carte, tu dis, bon, où est-ce que j'ai pas été? Tu sais, là, je me suis promené un petit peu avec mon airship, puis j'ai vu des îles que... OK, j'ai pas été là, c'est clair, je vais aller faire un tour, mais je me suis promené pour les trouver, j'ai pas regardé sa carte. Ah, elle m'a allé là.
Non, mais un jeu qui a pas de carte, t'explores plus. Uh-huh. Parce que tu fais pas juste regarder le prochain point où aller.
Ça évite le syndrome GTA. Là.
Ouais, c'est ça.
Il y a pas de pute dans cette tune.
Il y a des slots dans tes armes, par exemple.
Bon.
Bon. Bon. On passe à autre chose.
Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant, les petites explications qui... Tu revenais sur les critiques, puis on s'entend que c'est des critiques assez minces.
Ouais.
Mais tu sais, c'est bien. De mon côté, mettons, je reviens sur l'atmosphère du jeu, là, parce qu'il y a quand même une belle atmosphère à ça. Oui, c'est triste, mais c'est aussi mauditement beau. Je suis content qu'ils n'ont pas justement décidé d'y aller sur un jeu style 16-bit, qui est super populaire comme style présentement, mais d'y aller avec un jeu complètement 3D, complètement...
qui a sa propre identité.
Mais voilà. Tu sais, les personnages du jeu sont super... On pourrait dire cute parce qu'ils ne sont pas 300 000 polygones réalistes. Ils ont un petit côté un peu cute. Mais autour de ça, le monde du jeu est génial. Là. Tu te promènes dans la neige, là, puis tu laisses des traces. Mais tu ne laisses pas des traces de pas. Tu laisses des traces de corps parce qu'il y a tellement haut de neige, parce que personne ne voyage, que tu te promènes puis ça laisse des trails. Puis ils ne disparaissent pas après trois pas. Là. Fait que, si tu tournes en rond, là, tu peux faire un beau petit cercle de traces dans la neige. C'est super drôle. Tu sais, ça laisse un petit côté, OK, il n'y a personne qui a passé ici, là. Il y a trois pieds de neige, folle. Tu sais, c'est... fait que c'est super beau. Avec les petits personnages qui sont, tu sais, qui fitent dans le décor, même s'ils sont un peu plus cute au niveau du nombre de polygones, mais ils fitent quand même dans l'atmosphère. Au niveau du son, il n'y a pas beaucoup de voice acting, mais c'est correct, c'est normal, ça fit avec le principe. Il n'y en avait pas non plus à l'époque. Mais tu peux quand même activer une option dans le menu qui te permet que quand tu es en combat, il y a quelques lignes que chacun des personnages vont dire. Puis il n'y a que la version japonaise de ce qu'ils vont dire. C'est quand même amusant. Là. Le petit côté animé revient où est-ce que. Puis bon, si tu fais les mêmes lignes, à un moment donné, ça devient tannant. Tu le mets à off, on n'en parle plus.
Voilà.
Moi, je ne l'ai pas encore mis à off parce que je trouve ça drôle. Je commence à les apprendre. Puis j'essaierai pas de les répéter. Là. Mais c'est le seul voice acting qu'il y a. Tu sais, ce qui fit avec le principe du jeu, avec l'idée. Puis voilà. Donc après 15 heures de jeu, j'ai encore mis les. Je suis encore à on. Je trouve ça drôle. Mais je garde le meilleur pour la fin, là, c'est la musique. La musique dans ce jeu-là, elle est géniale. Elle amplifie cette atmosphère-là de tristesse. Tout est en gros piano. C'est pas une orchestre complète, c'est un gros piano. Puis un solide, là. Puis même avec le peu d'instruments... Oh, il est très gros. Gros, mais... il y a 432 notes, je pense. Le gars se promène avec une minivan. Pour... Non. Avec un Segway.
C'est beau!
Pas besoin de 432 notes pour avoir besoin d'une minivan pour très bien un piano.
Non, je parle devant le piano.
OK.
Ce que j'allais dire, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup d'instruments, il arrive à faire des trucs très, très diversifiés. Ben, on le sait qu'un piano, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de choses. Puis ça donne une des soundtracks peut-être là, les plus intéressantes que j'ai entendues depuis longtemps là, dans un jeu. J'ai choisi une couple d'extraits pour vous montrer, puis ça ne montre même pas si bien que j'aurais voulu, pour juste pour vous donner quand même un peu l'atmosphère. Donc, j'y vais avec le premier extrait. J'arrive pas à me rappeler où est-ce qu'elle joue cette musique-là, j'ai cherché un petit peu, mais elle donne une belle idée de l'ambiance, là, une belle idée de l'ambiance, mais aussi de la belle job de composition qu'il y a eu. Un peu plus loin dans le jeu, il y a une marche un peu style militaire qui joue, puis en fait, c'est sur la carte du monde. Puis en fait, sur la carte du monde, c'est pas tout le temps la même musique, dépendant de quelle région tu te retrouves dedans. Puis dans cette région-là, qui est une région proche d'une ville, où est-ce qu'il y a un petit côté un peu plus... il y a un petit côté militaire pendant un certain temps, mais ça passe. Il y a cette marche-là. J'étais allé clipper un bout aussi, où est-ce qu'on voit un changement de style dans la même chanson, là.
Très, très
j'ai cool. Des frissons. Puis là, la marche, elle continue de chaque côté pendant quand même un bon bout de temps. Là. Fait que le bûchage sur le piano du début de la toune est là pendant quand même un bon 40 secondes. C'est pas des loops de 12 secondes, le style Super NES. Là. C'est vraiment plus défini avant que ça loupe. Je termine sur une toune qui est, je pense, un boss fight.
Penser à cette dose du Fight Further là, qui avait été faite au piano dans le film Advent Children.
Ouais, exact. Quand qui fait exprès de le faire sans défaut un petit peu, ouais. Quand que ça grimpe.
Quand
puis...
il va dans l'église. Là.
Ouais.
Mais moi, je regrette un petit peu de ne pas avoir acheté la version là, Collector's Edition machin avec la soundtrack. Je vais l'acheter, c'est tout.
Je sais pas où on pourrait donc la trouver d'autre.
Mais tu sais, pour elle, c'est une soundtrack écœurante, puis c'est quand même diversifié. Ça bouge beaucoup. Puis dans le jeu, ben, ça t'accompagne. Tu n'es pas tanné de la musique. Même dans les combats, t'es pas tanné de la musique parce que t'es dans un combat, c'est une toune de piano qui est agréable à entendre puis qui te met un peu sur le nerf parce que t'es dans un combat. Puis... Fait que ça, l'atmosphère est vraiment amplifiée par la musique, c'est vraiment génial. Fait que Ayam Setsuna, méchant bon jeu, beaucoup, beaucoup de plaisir. Je disais justement sur notre chat à un moment donné cette semaine que j'avais pas le goût d'arrêter de jouer pour préparer le podcast. Puis ça, ben, c'est signe que c'est parce que j'aime vraiment le jeu, là. Parce que j'aime ça pour préparer le podcast.
T'sais. Ok, je sais où t'es amené de faire des pods. Mais...
Non.
C'est... Ok, c'est good.
Ben, tu sais, je l'ai acheté le jeu, mais j'ai mis zéro temps dessus. J'ai téléchargé, j'ai pas encore essayé.
T'as-tu aimé ça à date? L'achat, c'était-tu une bonne expérience?
Mais l'icône est belle, là. Elle apparaît bien dans ma librairie, tu sais. Mais tu m'as convaincu de mettre du temps là-dessus.
Ben, tant mieux. Donc, pour un RPG au gameplay classique, avec un feel quand même moderne, qui respecte mon temps de jeu. Pour un RPG, c'est assez génial. Ce que plusieurs RPG font ou pas. Je vais donner 4 pattes du divan qu'on retrouve dans la maison de Chrono, dans Chrono Trigger, mais que j'ai remasterisé en 3D et j'ai mis de la neige dessus. Good show! Donc, pour trouver nos derniers épisodes sur le divanquest.com, pour du feedback, du hate mail, des commentaires sur le nouveau format.
Sur le format de cette semaine.
De cette semaine. Sur Twitter au twitter.com/divanquest, sur Facebook au facebook.com/divanquest, par courriel au divanquest@gmail.com. Le podcast se retrouve sur le rzoweb.com avec un paquet d'autres podcasts québécois, dans la liste de Pod Québec au podquebec.com. Aussi, allez sur iTunes, hein, je vous rappelle encore pourquoi on est fatigué avec iTunes. Donc, quand vous nous donnez une review sur iTunes, le podcast va se retrouver mieux classé dans leur liste. C'est plus facile pour quelqu'un de le retrouver par hasard. Ça fait qu'il y a plus de monde qui peuvent nous écouter. Puis, comme on aime ça faire le podcast pour des gens, ça nous motive aussi. Donc, je vous laisse sur ces mots.
Game on!
Game on!
Thank you.